Ici, nous avons des poissons qui font partie de la famille des poissons plats. Vous voyez ici, c'est un carrelet. On peut le reconnaître avec ses petites taches oranges. Ça, c'est une limande. Quelquefois, on a du mal à les reconnaître, les soles et les limandes.
La sole est un poisson qui se cache dans les fonds sableux. Elle ne se laisse pas attraper facilement.
La nuit, c'est là qu'elle ressort. Donc nous, on met les filets le jour pour que ça pêche toute la nuit. Et on les relève que le lendemain matin.
Et justement, je cuisine ça comment ? Dans la poêle ?
Dans la poêle, comme un steak. Une fois cuit, un petit beurre citronné, et c'est parfait.
Et c'est parfait ?
Et poivre, et tout va bien.
Bonjour à toutes et tous, et bienvenue à bord d'On va déguster. Aujourd'hui, on prend la mer, et on part à la pêche d'une famille de poissons nommée Pleuronectiformes. J'y suis arrivé, ce sont les fameux poissons plats. Carlet, barbu, turbo, et bien évidemment cette fameuse sole sur laquelle on va pas mal insister. Dans la mer, ces poissons sont plats, mais dans l'assiette, il se pourrait qu'ils aient du relief. Pourquoi sont-ils biologiquement plats? Quel est l'état de leur stock? Comment sont-ils pêchés? Comment on les cuisine? Peut-on les consommer crus? On se pose toutes ces questions avec nos deux invités du jour. Charles Guerriac, bonjour.
Bonjour, la pêche.
Vous avez la pêche?
Bah oui, j'ai fait avant.
On ne peut pas s'en empêcher, évidemment. Vous êtes fondateur de Poiscaille, le circuit court de la mer. Vous proposez aux particuliers des casiers de la mer qui sont un peu les équivalents marins des paniers de légumes, c'est bien ça?
Exactement.
Vous mettez en lien deux petits pêcheurs côtiers sur tous les littoraux de France avec les amateurs de poissons, les consommateurs, les particuliers.
C'est ça, et en plus ça permet aux pêcheurs de pêcher moins parce qu'on les paye plus cher. On se dit frais durable éthique, et c'est pour de vrai, c'est pas du bullshit.
C'est tout l'intérêt d'un circuit court de la mer. Pour dompter ces poissons en cuisine, nous avons à nos côtés Thibaut Sombardier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef à Paris, vous avez été au Fourneau d'Antoine, qui est quand même un restaurant gastronomique qui fut porté sur les saveurs marines. Vous y avez d'ailleurs acquis une étoile Michelin, je crois.
Exactement.
L'aventure s'est terminée en mars dernier.
Le Covid.
Voilà, mais vous avez en revanche deux bistrots à Paris, Mensae sur les hauteurs de Belleville.
Exactement.
Et Selaé dans le 13e arrondissement.
Ouais.
Les fans de Top Chef sur M6 vous connaissent aussi parce que vous avez été en finale de la saison
2014.
Exactement. 5. Voilà, c'est ça. En 2014, vous allez dans ce studio nous faire notamment une implacable démonstration de...
Sole meunière.
Sole meunière, la vraie sole meunière. C'était, paraît-il, le plat préféré d'un certain Paul Bocuse. Embarqué à mes côtés pour cette traversée, j'appelle Elvira Masson et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour les copains.
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour à tous.
Elvira.
Je vais vous parler d'une association engagée en faveur de la pêche durable et des hommes et des femmes qui la pratiquent.
Absolument, on va connaître son identité dans le courant de cette émission. Et Jérôme, aujourd'hui, nous mène à tout.
Je vous parle du vin préféré de Jacques Coeur.
De Jacques Coeur, mène à tout.
Mène à tout.
Non, j'ai tenté un jeu de mots, mais là, ça tombe complètement à plat.
Pas du tout.
Trop d'indices.
Non, pas du tout.
Un vin de salon, peut-être.
Et un vin de salon.
Oui, c'est ça, d'accord. Les recettes marines de nos invités, nos coups de cœur, nos infos pratiques, le podcast de l'émission ainsi que le podcast de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bon, juste avant de nager, non pas en eau trouble, mais de vous servir du poisson, je vous propose un petit instant carnivore, ça vous dit?
Avec plaisir.
Cette semaine, j'ai eu une faim de loup à Lyon. J'étais mercredi dans ma ville natale. Je crois que je suis pas le seul lyonnais sur ce plateau.
Effectivement, ouais, je suis de Lyon aussi.
Thibaut Sombardier, lyonnais également. Je sais pas si vous connaissez l'adresse dont je vais vous parler, parce que j'ai cueilli une bien belle surprise sur les pentes de la Croix-Rousse. Mais alors... comme ça a ouvert il y a seulement quelques mois, c'est tout nouveau. Métro Hôtel de Ville, vous voyez à peu près où ça se situe, sur les pentes de Lyon. Au 10 rue Termes, dans le premier arrondissement de Lyon, je suis tombé sur Chef Berliner. De quoi peut-il s'agir dans ce nom? Vous avez peut-être un indice, Elvira?
Ça pourrait être du currywurst, ou ça pourrait être...
Brötchen mit currywurst, ja, das stimmt.
Non, c'est pas ça.
Ça pourrait être... un totem de la street food allemande, berlinoise, le kebab.
Bravo, oui. Le kebab. Mais alors, l'école berlinoise du kebab, vous situez à peu près ou pas?
Un tout petit peu, c'est l'école turque et c'est un kebab qui est riche en légumes.
Exactement.
En gemüse.
Il n'y a pas que de la viande, il y a aussi des légumes. Oula, on a des germanophones autour de ce plateau, absolument. Le kebab berlinois est bourré de légumes, comme vous le dites, et on sait que Berlin est vraiment peut-être bien la capitale européenne du kebab. Eh bien à Lyon, Redouane Alaoum, c'est le patron, se revendique de cette école berlinoise pour façonner de façon totalement artisanale ce sandwich de viande grillée à la broche.
Alors le Berliner Kebab, ça va, comme son nom l'indique, ça vient de Berlin et il y a des légumes grillés qui complète le sandwich. Et on a une viande de qualité. Donc là, en l'occurrence, ça serait du veau fait maison. Donc avec une marinade spécifique que l'on a travaillée. Et on nous propose aussi une alternative peut-être un peu moins prononcée, qui serait du poulet. Et pareil, la marinade est faite maison et on monte les broches tous les matins. On doit donner notre personne pour avoir une viande bien grillée et forcément les brûleurs sont à fond. Et la viande est bien croustillante, à la fois fondante, et c'est ce qu'on recherche ici. Donc là, je suis en train de trancher la viande. Donc là, on est en train de faire un classique, plus de viande qu'un berliner. Alors le pain, c'est un pain fait par un boulanger turc. Et donc voilà, on a voulu un pain aérien, qu'on le sente quand même, mais qui prenne pas le dessus.
Alors moi, je prends la suite et je vais mettre toutes les crudités. Donc j'ouvre bien mon sandwich pour pouvoir mettre tout à l'intérieur. Donc tous nos produits sont frais, bien sûr. Donc salade fraîche, découpée tous les matins. Ensuite, je rajoute les tomates et les concombres en petits dés. Je vais mettre des oignons rouges un peu partout aussi. Comme ça, on les sent bien dans le sandwich, ça relève. Après ça, je mets le chou rouge. Donc le chou rouge, il est mariné. Pareil, petite marinade secrète, façon pickles. Après le chou rouge, très important pour nous, c'est de mettre de la sauce. Donc on ressauce le sandwich. Là, c'est de la sésame, notre sauce vegan d'ailleurs. Donc j'en mets un peu partout. On veut pas un sandwich sec, c'est très important pour nous. Après, je vais déposer un nuage de feta, comme à Berlin. Pour finir, on met un petit peu de coriandre et le fameux zeste de citron qui change tout. Et ça y est, on peut le dévorer du coup.
Alors Herman, ce kebab, oulala, il est beau quoi.
Alors, très généreux, on sent bien la viande. Et déjà, quand je l'avais en main, je m'attendais à ce que j'étais en train de manger là. C'est hyper bon, on sent bien les légumes. Un bon mix entre un bon kebab berlinois et français en fait. Il a tout.
J'ai dégusté ce kebab lyonnais avec le spécialiste des cuisines de rue, Irman Abdoulhakim, pour le coup, qui est vraiment
calé en la matière,
un grand spécialiste. Bon, quand vous avez entendu Besma, la sœur de Redouane, le patron, en train de mettre des tomates, peut-être que ça vous a un peu piqué les oreilles.
Je trouve ça surtout stupide parce que c'est pas bon, quoi.
Absolument, bon.
Et puis c'est tout simplement pas bon, ça n'a aucun intérêt de mettre des tomates quand elles sont pas mûres.
Les tomates en hiver, on va dire que c'est la seule fausse note de ce kebab délicieux, copieux, légumier, très nourrissant. D'ailleurs, pas mal de gourmets lyonnais ne nous ont pas attendus pour aller se faire un kebab. Mais également, attention, pour s'envoyer de super frites maison. D'habitude, pour faire des frites, Thibaut Sombardier, on choisit quelle variété? Vous?
Je prends plutôt de la grilla.
Ah, de la grilla ou de la bille, Jean?
Moi, je suis sur la grilla, elle met du temps à colorer et comme ça, elles sont très fondantes.
Parce qu'alors, le patron a choisi l'agata, une pomme de terre à chair ferme. Il les découpe chaque jour et ça donne des frites alors qui sont pas du tout croustillantes, qui revendiquent même une certaine mollesse. Elles sont assez cuivrées, presque caramélisées, mais alors sucrées, incroyablement sucrées. Vous savez, un peu ces frites de stade de foot, un peu ramollo, mais très sucré et assez bonne, sauf que là elles sont totalement maison. Voilà, j'avais des principes assez rigides sur les frites, et ben j'avoue que je vais devoir
bien aller avec le kebab,
revoir
ça,
un peu mes certitudes, et ça va très bien. Gros kebab plus frites plus boisson égale 12 euros. Chez Chef Berliner, ouvert du lundi au dimanche au 10 rue Terme, près de la place des Terreaux à Lyon. Allez-y, de la part dont on va déguster, vous leur faites un petit bonjour. Derrière la console, Laurent Thomas et Fabrice Desmaz. Nadia Chougui a préparé l'émission et s'occupe aussi du site internet de l'émission. Djoubaka a choisi Benny Sings avec Tom Misch à la guitare. Nobody's Fault. On prend la mer sur France Inter.
Say it's better this way. It's time to see.
On va déguster.
Un jour, il est arrivé un malheur à ces pauvres poissons plats. Neptune, c'est le dieu de la mer. Alors, il sort de la mer, il se promène, il marche sur le sable. Puis, va savoir pourquoi, il fait même pas attention, il marche sur un poisson. Un poisson qui était un poisson rond. Alors, le poisson est en train de dormir tranquillement sur le sable. Il est dérangé, bien entendu. Alors, comme il peut piquer, il a une petite épine. Pouf ! Il pique ! Et il pique le pied de Neptune. Alors, Neptune se met en colère. Il est absolument furieux. Il donne un gros coup de pied sur le poisson et il l'aplatit. Et alors, il est tellement mécontent. Il dit, eh bien, puisque c'est comme ça, tu resteras jusqu'à la fin des temps un poisson plat. Et alors, c'est pour ça que la sole, le turbo, le carlet, la barbue sont devenus des poissons plats et qui seront plats jusqu'à la fin du monde.
Vous avez sans doute reconnu Jean-Pierre Coff, qui officia de très nombreuses années au fourneau de France Inter et qui évoquait la platitude de certains poissons. Charles Guerrier, qu'est-ce que vous croyez à cette fable du poisson plat, le turbo, la sole, l'alimande, qui aurait été réduit en semelle à chaussure par les forces divines de Neptune?
Bah, il a peut-être marché sur une vive, hein, en Méditerranée, oui, ça arrive souvent l'été sur les plages.
Aucun risque de se piquer avec un poisson plat?
Aucun. Alors, le carlet a gardé un picot près du ventre. Et parfois, quand on se plante pêcheur ou poissonnier, on s'en rappelle.
C'est ça.
Et il a tendance à se dissimuler pas mal. Les autres ont pas de piquant, un peu de rugosité sur le turbo, mais c'est pas grand chose.
Alors, Charles Guerrier, vous êtes fondateur de Poiscaille, le circuit court de la mer. Vous êtes un expert sur toutes les questions de la pêche, mais là, on voudrait que vous soyez un petit peu prof de sciences nat, ou de biologie, ou même spécialiste de...
D'ichtyologie.
Ichtyologie, c'est ça, hein?
C'est ça, c'est
l'étude des poissons.
La science de la morphologie, de la biologie des poissons.
C'est
donc
ça.
C'est quelqu'un qui va être capable de dire combien de rayons épineux a un turbo, plus qu'une barbue.
Waouh. Voilà. Et comment pourrait-on expliquer alors cette morphologie si particulière de ces poissons plats?
Mais en fait, les poissons plats, ils naissent alevins comme un poisson droit, on va dire, ou un poisson rond. Et ce qui se passe, c'est que, au cours de leur vie, à quelques semaines à peine, il y a un œil qui va faire le tour de la tête et migrer pour rejoindre l'autre. Et après, le poisson va se poser sur un côté. Donc en fait, c'est ça qui fait qu'ils deviennent plats. Ils ont toute une transformation à ce moment-là. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a des poissons gauchers parce qu'ils vont se coucher plutôt sur le côté droit et des poissons droitiers qui vont se coucher sur le côté gauche.
Est-ce qu'il y a une hypothèse scientifique qui expliquerait cette évolution d'un poisson qui tout d'un coup deviendrait plat? Est-ce que c'est par rapport au risque, à la peur des prédateurs, ou au contraire, est-ce que ça peut être une stratégie de chasse?
Bah, c'est les deux options, en fait. C'est-à-dire que les petits, comme les soles, les carlés, eux, ils sont plats, ils sont posés au sol. Ils arrivent en plus avec leurs nageoires qui sont maintenant sur les côtés à remuer un peu le sable. Et ça fait que ils se couvrent un peu de sable et donc on les voit à peine. Donc s'il y a un prédateur qui arrive, ils bougent plus et ils ont une couleur qui est proche du sable en général. Mais alors que les plus gros, comme les barbus et les turbos, eux, ils vont se planquer, puis ils vont attendre tout d'un coup qu'il y a un truc qui leur tourne, une proie qui leur passe devant, et ils vont pas se faire voir, et au moment où la proie se rapproche, ils ont plus qu'à ouvrir la gueule pour le manger.
On est d'accord que tous ces poissons plats répondent au nom un peu compliqué, scientifique, de pleuronectiforme, qui viendrait des mots pleura, côté, nectos en grec, nageur. En gros, c'est des poissons qui nagent sur le côté.
Exactement. Alors, on met pas là-dedans les raies, parce que là, on est sur un autre ordre. On n'est pas sur des poissons osseux, on est sur des poissons cartilagineux.
C'est pas du tout la famille des poissons plats, les raies.
Pas du tout. On est vraiment, on a divergé dans l'embranchement bien avant. Et on met pas non plus la baudroie, parce que aussi, elle est plate, elle est au sol et elle chasse parce qu'elle est calée au sol. Mais on est sur une autre famille complètement.
Là, vous nous avez apporté des spécimens incroyables, de tailles d'ailleurs très différentes. On va en parler dans un instant avec Thibaut Sombardier. Il va même, je crois bien, les cuisiner. En un mot, là, un petit inventaire à l'après-verre.
Eh ben, on a le carlet, on a une barbue, un turbo assez gros.
Ouais. Alors, barbue, turbo, ils se ressemblent beaucoup, hein.
Ah, ils se ressemblent beaucoup. Le barbu, la barbue un peu plus longue, le turbo un peu plus carré. Le turbo, quand on le touche, il a des petits picots qu'on sent sur la peau.
Alors que la barbue a la police.
À la barbue a la police. Alors qu'elle est barbue. Et on a trois variétés de sol, donc il en existe quatre, mais là on en a trois. La blonde, la brune et la sénégalaise.
Oui.
La sole sénégalaise, elle vient pas du Sénégal, alors son aire de répartition est principalement au Sénégal, mais on en a, nous, dans le sud du golfe de Gascogne, donc Arcachon, la Vendée, le Pays Basque, où on la trouve, et donc on peut acheter de la sole sénégalaise française.
Et ça, c'est le genre d'éventail de poissons que vous vendez via votre casier de la mer Poiscaille.
Exactement, là, il va nous manquer le flé, qui est le mal-aimé, et le seto également. La sole perdrix, un peu plus rare. Mais voilà, nous, on essaie de valoriser toutes les espèces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le turbo et la sole brune qui sont les stars les plus nobles. Ce petit carrelé là, en fait, au quotidien, il est très bon. Et donc, quand il est là, on le met dans les casiers.
Absolument.
On va pas dire aux pêcheurs, jetez-le et on vous le paiera 10 centimes. On va le payer plus cher pour que, au global, les pêcheurs puissent pêcher moins chaque année.
On va parler dans un instant des qualités aussi gustatives, puisqu'on a un très bon cuisinier de la mer sous la main, qui se contente pas d'ailleurs de cuisiner les poissons plats, mais qui les a très longtemps observés. Je sais pas d'ailleurs si c'est encore un hobby que vous pratiquez, Thibaut Sombardier.
Ouais,
la chasse sous-marine, racontez-nous l'impression de croiser, lorsque vous plongez en Méditerranée, des poissons plats.
Eh ben, déjà les poissons plats, bon, c'est un peu plus rare en Méditerranée, mais il y en a quand même en hiver, enfin des plus gros spécimens. Et l'été, on en croise un peu, mais c'est des toutes petites pièces. Et c'est un poisson qui se confond totalement dans son élément. Donc c'est assez marrant, on les repère juste avec des petits yeux qui sortent du sable. Et là, on peut aller s'amuser, à les titiller, à les faire avancer. Pas la peine de les chasser, c'est trop petit.
Alors Thibaut Sombardier, vous êtes originaire de Saint-Priest, hein, on est dans la métropole lyonnaise.
Je suis né à Saint-Priest.
D'accord, et vous avez vécu à Lyon.
Et j'ai grandi à Lyon.
A priori, rien ne vous prédestinait à vous tourner vers le poisson, à le cuisiner,
absolument
à apprécier
rien.
Cet ingrédient.
Non, absolument rien, à part peut-être l'amour de la pêche.
Mm-hmm.
À un moment donné, il faut déguster les fruits de sa pêche.
C'est ça.
Mais c'est pas facile.
Vous ne mangez pas de poisson à la maison ?
À la maison, très peu. C'est vrai qu'à Lyon, c'est pas non plus un produit de prédilection à la base, dans les familles, je parle normal.
C'est ça. Et vous avez mis du temps à apprécier le poisson, ne serait-ce qu'au niveau de la dégustation. Je parle même pas de la cuisine. Que s'est-il passé ? Où a été le déclic ? Comment avez-vous fait votre cooking out en termes de poisson ?
Ouais, exactement. En fait, j'aimais pas le poisson et tout ce qui venait de la mer me rebutait un peu. Il y avait que les moules, j'arrivais à manger, mais c'est tout. Le reste, j'aimais
avec
pas du tout l'odeur. Ouais, les moules avec des frites baignées dans le bouillon. Et je travaillais à la Rivoire, qui est un petit restaurant qui était à côté de Lyon, à Rieux-la-Pape.
C'est un restaurant étoilé.
Là où j'ai commencé, voilà. Et le chef, il m'a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas être cuisinier si t'aimes pas le poisson. Enfin, ça a aucun sens. Comment tu fais pour goûter les sauces, pour goûter, t'es bête, quoi.
C'était sans intérêt. Bernard Constantin. Le chef de la Rivoire.
Il mâchait pas trop ses mots.
Ouais.
Et du coup, il m'a fait une seule meunière. Voilà. Tout simplement, il m'a dit, il faut commencer par là. Et là, j'ai goûté.
C'est la première fois?
Ouais, c'était la première fois. Non, j'avais jamais goûté. J'avais 21 ans, j'avais jamais goûté de sole de ma vie, et j'ai goûté, je me suis dit, effectivement, c'est quand même très très bon, quoi. Il y a pas de, c'est pas fort, en fait, il y a pas ce goût de poisson qu'on n'aime pas.
C'est très fort, le poisson un peu vieux.
C'est très fin, très subtil.
Oui, c'est très fin et très subtil, c'est un poisson remarquable pour ça.
Ah oui, c'est très subtil, et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, allez, je me lance. C'est juste une barrière psychologique, en fait, que j'ai passée. Je me disais dans ma tête, je savais, bon, le poisson, j'aime pas, c'est bon, je mets de côté... Et en fait, au fur et à mesure de travailler son palais au poisson, et ben après, on s'éclate, quoi.
Et là, vous êtes même carrément devenu, il y a quelques années, le chef d'Antoine.
Ouais.
On a eu l'occasion de s'y attabler ensemble, Jérôme Gagnez.
Oui, en avril 2013.
Très belle prestation iodée, signée Thibaut Sombardier.
On avait très très bien déjeuné.
Sur les quais de Seine, démarche remarquable. Vous étiez d'ailleurs très sensible déjà à la pêche de petits bateaux côtiers.
Durable, ouais, bien sûr. Ouais. Quasiment pas avoir de carte fixe, en fait. C'est de travailler un petit peu les produits... qui arrive, hein. Il y avait plus de rouget à la carte qui reste pendant 3 mois.
Mmh.
On n'en a pas. Après, ça fluctue. C'est pas grave. Maintenant, on a des imprimantes directement au restaurant. On peut taper la carte rapidement.
C'est ça. On aurait pu vous vendre des quasi-poiscailles, alors.
Absolument. Peut-être que des rencontres vont se faire sur le plateau dont on va déguster. Dans une minute, vous allez cuisiner la sole meunière, carrément. Vous êtes prêt, Thibaut, pour une démonstration en direct.
J'ai du beurre, une sole.
Une très belle poêle, une plaque de cuisson, une sole sur l'étal de notre ami Charles Guerriec, puisqu'il nous a apporté de très beaux spécimens. Vous allez aller choisir votre sol et on va se mettre tout doucement en place. Juste une petite question consommation. Peut-on consommer de la sole en ayant, en ce moment, mais de façon générale tout au long de l'année, la conscience tranquille ?
Alors la sole, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. C'est-à-dire que les stocks sont plutôt en bon état.
Mm-hmm.
Il y a une inquiétude sur tous les stocks de poissons plats, de toute manière, dans la mer du Nord.
Mm-hmm.
Mais on a peu d'arrivages de mer du Nord parce que c'est plutôt les pays du Nord qui pêchent là-bas. Après, on en pêche quand même un peu trop, donc faut y aller un peu mollo. C'est pour ça qu'elle est si chère, donc les pêcheurs la cherchent beaucoup. Toujours la même chose, en fait. Il faut privilégier les sols qui sont pêchés au filet trémaille ou au filet droit.
Ouais.
Et aller embêter son poissonnier pour être sûr qu'elle vienne bien de France et qu'elle vienne pas des Pays-Bas, parce qu'on a encore de la sole certainement issue de pêche électrique. Qui débarque sur nos
étals. Petit point sur la pêche électrique, parce qu'effectivement, l'une des principales victimes de la pêche électrique, ce pur scandale apparu il y a quelques années, ce sont les poissons plats.
Les poissons plats,
et notamment la sole.
Exactement.
Où en est la pêche électrique? Elle a été interdite, mais elle est encore en vigueur. Elle est encore autorisée
pour certains jusqu'à la moitié de l'année 2021. Je crois que c'est juillet que ça s'arrête.
Ouais.
Mais en gros, les Hollandais, ils font des petites dérogues, puis les Allemands, puis machin. Enfin, donc, Bloom se bat vachement pour ça. Donc, faudrait aller continuer à soutenir Bloom.
Là, vous
pour qu'ils soient
vigilants.
Voilà, qu'ils continuent leur lobbying à la Commission et qu'ils soient vigilants, parce qu'en fait, il peut y avoir des trucs qui passent qui fait que peut-être dans 10 ans, on aura encore de la pêche électrique, alors que tout le monde se dit, c'est bon, c'est fini, on n'entend plus parler.
Le principe de la pêche électrique, c'est des captures, on est bien d'accord? C'est ça que Jérôme Gagnès, que vous vouliez savoir?
Oui, je voulais qu'on précise.
C'est, ce un, que la pêche. C'est comme un chalut, donc c'est un chalut qui déjà traîne au fond, donc c'est pas super top. Mais pour l'alléger, en fait, on a pris des électrodes qu'on a mis sur ce chalut, qui permettent d'aller titiller le poisson. Alors, il n'est pas cramé à l'électricité, c'est un peu caricatural, mais il se prend des petits pets d'électricité, ce qui fait qu'il va sortir du sable, et donc il va être plus facile à attraper. Donc on chope les crevettes grises et les soles hyper facilement.
Et ça fait des carnages.
Et alors voilà, on empêche beaucoup. En fait, le problème, à la limite, il y a la question de est-ce qu'on électrocute les poissons ou pas. Bon, on la met de côté, l'efficacité est ouf. Et donc, bah, la mer du Nord, elle est déjà vachement pêchée par plein de pays. Quand on a rajouté ça, en fait, ça a fait des rendements de maboule. Résultat, on a les filayeurs de Boulogne et de Dunkerque qui se retrouvent dans la merde parce qu'ils ont beaucoup moins de poissons et ils le voient. Et à côté de ça, des bateaux de 30 mètres hollandais qui, eux, passent à l'électricité.
C'est un drame écologique et social.
C'est ça.
Absolument, exactement. Elvire Masson. Et s'il fallait donner un ou deux conseils aux consommateurs français avant d'acheter de la sole, déjà, est-ce qu'il n'y a pas une petite réserve sur la saison dans la mesure où on apprend en se documentant que de janvier à avril, la sole est en période de reproduction? Il serait donc, selon certains observateurs, déconseillé d'en vendre et d'en consommer à cette période. On est en plein dedans, là.
Ben, l'halieutique nous dit qu'en fait, il n'y a pas de relation entre... le fait de pêcher en période de reproduction et la quantité de juvéniles qu'on aura dans le futur. Donc en fait, ça sert à rien de dire je boycotte en période de reproduction. Ce qui est important, c'est d'en manger moins au global.
Au global.
On mange une mame en sol qu'on va pas manger maintenant. Si on la mange en septembre, eh ben, l'année prochaine, elle fera pas de bébé. Donc ça changera rien.
Oui, mais elle en aura peut-être fait entre-temps, mais bon.
Qui seront peut-être morts à cause des aléas climatiques, d'un coup de vent, d'un coup de froid comme on a maintenant. Mm-hmm. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'aléas dans le succès de la reproduction.
Il faut plutôt se fier donc, si j'ai bien compris, à la zone de pêche et par ailleurs à la technique de pêche.
Privilégier filet trémaille et filet droit. Demander à son poissonnier d'où ça vient. Idéalement plutôt au golfe de Gascogne ou les ports bretons du Nord, parce qu'en Manche Ouest, les stocks sont plutôt en bon état. Mmh. Et ça, déjà, si on fait ça, si on évite la sole hollandaise, donc on lui demande si sur sa caisse, il n'y a pas une petite pastille sanitaire avec marqué NL au lieu de FR. S'il y a marqué NL, on lui dit « j'en veux pas ».
NL, c'est Netherlands.
Exactement.
Pays-Bas.
Et on mange aussi plusieurs espèces de sole, parce qu'on sait qu'on a la blonde, la brune, la sénégalaise. Tout le monde veut que de la brune. La blonde,
la soléa, soléa, la nôtre, enfin, entre
la
guillemets.
Vulgaris, voilà. Mm-hmm. Mais la sole blonde qui est payée moitié moins cher aux pêcheurs, ben en fait, aussi fraîche, elle mérite autant ses lettres de noblesse. Et il y a des moments, c'est moins cher. Et autant acheter celle-là. On diversifiera un peu notre consommation.
Vous évoquez le prix, justement, Elvira.
Oui, on a beaucoup de questions d'auditeurs qui arrivent et qui se posent la question de l'accessibilité de ce produit, notamment en termes de prix, dans les poissonneries des grandes villes.
Là, vous parlez de la sole.
Bien sûr, de la sole.
Qui est effectivement considérée comme un produit assez aristocratique.
Luxueux,
hein,
c'est un luxe.
Exactement, mais parce que tout le monde pense à la sole brune, la Solea vulgaris, qui, elle, vaut assez cher et est payée entre 15 et 25 euros selon la taille au pêcheur. Mm-hmm. Derrière, il faut qu'on multiplie au moins par 2, voire 3 le prix pour le consommateur. Mais en fait, ce qui est un peu dérangeant, c'est que parfois, sous l'étiquette sole, on met des blondes, des brunes et des sénégalaises. Et bah, le poissonnier, parfois, il a pu payer la blonde moitié prix, il la vend au prix de la brune. Donc en gros, quand on va à la côte, bah, on regarde, et quand il y a des coûts à des soles pas chers, si ça se trouve, c'est des blondes, et on les achète aux pêcheurs pour les soutenir. Et là, déjà, on aura fait une bonne chose.
Prix moyen constaté pour la sole brune, c'est-à-dire la Solea solea, peut-être bien l'espèce la plus commune sur les étals du poissonnier, 22 euros en 2020. Alors c'est un prix moyen, évidemment, dans les grandes villes, c'est beaucoup plus cher, parfois même ça dépasse allègrement les 30 euros.
Si c'est des gros sols pour faire enfiler, ça monte à 40,
bien sûr,
et même
tout dépend de la taille.
60 euros
du bateau,
dans
par
certains
contre,
centres-villes.
En Bretagne ou en Normandie, on peut s'en tirer, on peut même faire des affaires.
Oui, il y a des pêcheurs qui vendent la sole blonde à 10 euros, la sole brune à 15 euros. On prend 4 soles pour 15 euros, on se fait un repas à 4, chacun sa petite sole portion, on va dire, entre 200 et 250 grammes. En plus, ce qui est pas mal, c'est que la sole, on jette pas grand-chose. C'est-à-dire, comme on la cuit entière, on récupère l'ensemble de la chair. Dans la tête, il n'y a pas grand-chose. Dans la queue, au niveau des nageoires, il n'y a pas non plus énormément. On récupère tout ça une fois qu'on a tout dépiauté et puis on en fait un bouillon. C'est mieux que d'acheter un filet de lieu noir ou un truc comme ça.
Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier avec Thibaut Sombardier, sole meunière, sole entière.
Entière, exactement, ouais. Pas le choix.
Très bien, vous enfilez votre casque micro, puisque vous allez officier devant une plaque de cuisson. On est vraiment en live. Alors, votre définition de la sole meunière, cher Thibaut Sombardier.
Alors, pour moi, la sole meunière, c'est une sole avec la peau... On va garder la peau blanche parce qu'on va la garder un peu croustillante.
D'accord.
La peau noire, je vais l'enlever.
Ah.
Délicatement.
Alors, vous nous décrivez tous vos gestes, s'il vous plaît.
Petite technique, donc moi, alors soit on démarre par la tête ici, soit par la queue. Moi, je préfère démarrer par la queue. Je vais gratter un petit peu l'extrémité pour décoller la peau.
Et là, normalement, ça vient tout seul, quand on s'y prend bien.
Donc, on cède d'un petit sopalin parce que ça glisse.
Vous avez choisi un spécimen, on va appeler ça une seule portion.
Alors ouais, j'ai choisi une seule d'à peu près 300 grammes. Là, elle est assez épaisse, elle est jolie. Voilà. Et là, je tire la peau, qui vient difficilement. Elle est très fraîche.
Elle est trop fraîche.
Ouais. Faut pas hésiter.
Défaut de ses qualités.
Quand on achète les sols, les laisser un petit peu rassir au frigo, si elles sont trop fraîches.
Combien de temps?
On peut les laisser 2-3 jours. Après, faut pas que ce soit sur une assiette. Hein. Faut que ce soit sur une grille. Ou faut pas que son frigo il soit trop.
On peut laisser rassir une seule au frigo 2-3 jours.
Ah, hein. Il paraît même. Et ça, c'est une information que vous m'avez délivrée, Charles Guerrier, que c'est pas très recommandé de manger une seule trop fraîche.
Mmh. Eh ben exactement. Tiphaine Argelas, donc la femme de Benjamin Argelas, qui a pêché ce poisson sur le bassin Arcachon. Quand vous lui achetez des soles, elle dit bah non, elles sont du jour. Attendez au moins demain, voire même 2-3 jours.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on mange une sole trop fraîche? C'est qu'elle est trop dure?
Elle est trop dure, en fait, à la cuisson. Elle va se raccrocher à l'arête. Quand on va essayer d'enlever les filets, bah, ça va casser, ça va accrocher. Donc, on attend un peu.
Ça contrecarre vraiment les idées reçues. Hein.
Une question de Jérôme Guéniez.
Oui, j'ai une question sur la taille des poissons. On m'a dit que plus c'est gros et plus c'est bon.
Ah, bonne question.
Alors ça, tiens, mais ça, faut demander à Thibaut, parce que moi, j'entends un peu tout. J'entends les trop gros, ils sont pas bons.
Ça dépend.
Il y a une taille intermédiaire qui est idéale.
Je trouve que sur les turbos, les trop gros turbos, ils sont trop gras. C'est pas ce que je préfère, les trop gros poissons.
Les turbos de quoi, 8, 10 kilos, quoi?
Ouais, voire plus, même.
À 4, 5, c'est mieux.
À 4, 5, ouais, c'est très bien.
Donc on est d'accord pour dire que 4, 5 kilos, c'est meilleur qu'un turbo qui fait 1,5 kg.
Mais un turbo qui fait 1,5 kg cuit entier, ouais, doucement, c'est merveilleux.
D'accord.
Un turbo de 4 kg entier, c'est plus difficile à cuire.
La réponse, c'est ça dépend.
Conclusion, okay. La taille ne fait pas le plaisir.
Non. J'assaisonne la sole un petit peu.
On y est. Alors, vous avez déjà retiré donc la peau noire.
J'ai retiré la peau noire.
Là, vous pressalez un peu.
Ouais, je pressale un tout petit peu et là, je la mets dans le lait.
Voilà. Du lait.
Exactement.
Pourquoi?
Quand je vais la fariner, le lait, il va vraiment m'apporter un côté croustillant à la peau.
Waouh.
Ouais, c'est le petit plus.
Donc, ça, c'est bon à savoir.
Un petit bain dans le lait, mais alors là, vous avez juste mis un petit filet de lait, entre
guillemets. Ah oui, il n'y en a pas besoin de beaucoup.
Ça fait trompette, c'est tout.
C'est pas une marinade, hein. C'est vraiment, on va le laisser comme ça. Hop, maintenant, je vais la fariner.
Alors, fariner, il vaut mieux parce que sole meunière viendrait du mot meunier. On sait que c'est celui qui moue la farine au moulin.
C'est ça. Donc là, j'ai enlevé la tête aussi pour que ça rentre dans la poêle, hein, mais on n'est pas obligé de l'enlever. Hein. Voilà, je les goûte bien.
Et si on l'enlève, on la garde pour faire un bouillon.
Exactement, ouais,
absolument.
Ouais. Fumée de sol, c'est excellent. Je remets un petit peu de sel là côté chair. Voilà.
Et là, vous farinez également des deux côtés.
Et des deux côtés. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Voilà. Et pendant ce temps, on va faire chauffer la poêle. Voilà, je suis à fond. Je vais mettre un petit filet d'huile neutre, hein, une huile de tournesol. Hop, je vais la déposer peau blanche sur la poêle en premier. Après, dedans, on peut rajouter, des fois, moi j'aime bien mettre une petite pointe d'ail, un peu de persil, à la fin c'est très bon, ou à la grenobloise avec des capres, des croutons, du citron, ou alors un peu plus asiatique avec un peu de piment du Maroc, gingembre, ail, des petites herbes fraîches. Alors là, je vois que ça commence à colorer légèrement.
Et ça chante surtout.
Ouais. Je vais mettre du beurre, donc quelques petits dés de beurre, voilà.
Quelques petits dés de beurre. Ah oui, il y en a bien 50
grammes. Pour nos auditeurs, les dés sont quand même d'une taille très conséquente.
Voilà. Les dés sont jetés.
Non, vraiment, on rigole pas.
Ça sent bon.
Vais me munir d'une fourchette pour piquer le devant de la sole. Commencer à vérifier. Voilà. On va bien faire circuler le beurre en dessous.
Là, le beurre est en train de mousser.
Voilà, le beurre, il mousse, exactement. On voit que la température est pas mal. Hein. Il ne brûle pas du tout. On va l'amener jusqu'à la température noisette, en fait.
Thibaut, est-ce qu'il y a une règle de cuisson? Est-ce qu'il y a un temps de cuisson sur chaque phase d'une seule portion, on va dire, une seule de taille moyenne?
Il n'y a pas de temps de cuisson, on est à... quelques minutes, 4 minutes à peu près, je dirais, 4-5 minutes, pas plus. Et après, on va bien l'arroser et ça sera cuit, ça cuit assez
c'est
vite.
Ça.
Là, je vais baisser un petit peu, là, mon beurre, il commence à être à la bonne température. Je vais la retourner.
Et ça va cuire de l'autre côté quelques minutes.
Et là, on a une peau qui est vraiment croustillante, là. Hein,
c'est ça, la peau blanche.
Et ça, c'est la peau blanche qui n'a pas été retirée.
Exactement. Comme je vais l'arroser, on va bien répartir la coloration.
Et là, racontez ce beau geste.
Ça, c'est un geste.
Et le beurre mousse.
Ouais, c'est un des plus beaux gestes de la cuisine.
On voit que le beurre, en plus, il commence
cuillère,
à bien, bien mousser. Voilà, une cuillère. On arrose surtout la première partie de la sole ici, qui est le côté le plus épais, parce que la petite partie ici, généralement, on met une pomme de terre pour ne pas surcuire en fait la pointe de la sole.
La sole meunière est bientôt cuite. Dans quelques minutes, le fumet arrive jusqu'aux narines de Jérôme Gagnès, et qui va tenter justement un accord idéal avec son vin surprise.
On va déguster sur France Inter.
Mon cher Jérôme Gagnès, pendant que cette sole meunière finit de cuire, vous préparez l'accord ?
Mais oui, évidemment. Alors, pour répondre à votre merveilleux jeu de mots du début d'émission...
Jérôme Gagnès mène à tout.
Mène à tout, exactement. Et ça mène au salon. Et donc, me voici à Mène tout salon. Quand vous m'avez parlé du thème de l'émission, j'ai immédiatement pensé à Mène tout salon. Parce que j'ai une habitude, les très rares fois où je me fais de la sole, et plus souvent de la plie, je les fais entier, un peu meunière, à la poêle comme ça, et j'accompagne ça avec un beurre citronné. Donc je fais fondre du beurre, je mets le jus d'un demi-citron ou d'un citron, je rajoute une bonne cuillère d'une belle crème fraîche, je fais prendre un tout petit bouillon à tout ça, et puis je verse ça sur du riz que je fais pilaf au four. Et c'est un des menus préférés de toute la famille. On est comme des dingues, on s'en fait quasiment tous les jours. Et il n'y a quasiment rien de mieux qu'un Mène tout salon, qu'un beau vin issu du cépage Sauvignon, mais noblement né et noblement vinifié, pour accompagner ce mets. Parce que dès que l'on met un peu de citron, alors on peut mettre aussi, si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus diététique, on peut mettre juste un filet de citron sur le poisson, on va venir chercher le côté un peu agrume de notre Sauvignon qui est né sur des argilo-calcaires magnifiques du Jurassique à quelques kilomètres de Bourges.
C'est ça, on voulait la précision, enfin la situation géographique de l'appellation Mène tout salon.
J'y viens justement. 20 kilomètres au nord-est de Bourges, on est un petit peu à l'ombre d'un voisin un peu plus important, un peu plus connu qu'est Sancerre. Mais c'est un vignoble qui est très intéressant, Mène tout, parce que ça fait à peu près 600 hectares. Et c'est un vignoble qui a une très grande unité géologique, c'est-à-dire que grosso modo, l'ensemble du vignoble est assis sur de l'argilo-calcaire. Et ce qui va varier dans ce vignoble, en fonction des parcelles, c'est des climats, c'est en fait l'épaisseur de l'argile. Et donc, il y a un peu plus de terre parfois, ça va donner des vins un petit peu plus corpulents. Il y a un peu moins de terre, avec un peu plus de calcaire, ça va donner des vins qui sont un petit peu plus tendus. On a donc une appellation qui produit à la fois des vins blancs et des vins rouges. Les vins blancs sont issus du seul cépage Sauvignon. Les vins rouges et vins rosés sont issus du cépage Pinot Noir. Il y a d'ailleurs une assez grande proportion de Pinot Noir. Il y a 30% de l'appellation qui est en Pinot Noir, donc ce qui est assez élevé. Et c'est une appellation, en fait, à laquelle on ne pense pas suffisamment. Je vous le dis, chers auditeurs, il faut penser plus souvent à Mène tout salon, parce que ça produit des vins qui sont francs, sincères et qui s'accordent avec beaucoup de mets différents. Je vous parle ici d'une cuvée qui s'appelle la Montaloise 2018 du domaine Jean Théier.
Alors on est évidemment en blanc, hein.
On est en blanc, évidemment, c'est un Sauvignon. Dans un millésime 2018, qui est un millésime puissant, ample, assez riche. Donc c'est vrai que les vignerons de Mène tout salon, ils sont un peu secoués par ces trois derniers millésimes en particulier, 18, 19 et 2020, où ils récoltent des Sauvignons puissants, assez corpulents, et ça les change un petit peu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette cuvée montaloise du domaine Jean Théier, c'est que ils ont gardé de la fraîcheur, ils ont gardé la tension, en fait, propre à ces Sauvignons sur calcaire. Alors, c'est à la fois lié à une viticulture qui est respectueuse, qui est intelligente, des sols qui sont bien travaillés, et donc une vigne qui est très bien travaillée. C'est à la fois dû aussi au fait que ce sont des vieilles vignes profondément enracinées, puisque c'est des vignes qui ont été plantées dans les années 70, issues d'une sélection massale. Ça veut dire qu'on est allé chercher des bois sur des vieilles vignes dont on avait identifié qu'elles donnaient des beaux raisins, qu'ils étaient rarement malades, qu'ils étaient souvent parfaitement mûrs, et donc on a prélevé des bois, et puis on les a multipliés, on a planté des vignes donc sur cette parcelle qui s'appelle la Montaloise. Et au final, ensuite, c'est gentiment et c'est très bien vinifié. Levure indigène, on se presse pas trop, on fait des belles fermentations et tout ça est élevé dans des grands contenants de bois. Alors, pourquoi des grands contenants de bois ? Bien, il y a deux raisons à cela. D'abord, parce que ça va apporter un peu de micro-oxygénation. Parce que ces grands contenants de bois ne marquent pas le vin de leur empreinte boisée, un peu sirupeuse, qui va dominer le jus. Au contraire, elles elle va souligner comme un très joli maquillage. Elles soulignent le jus, elles en soulignent la beauté, elles en soulignent le caractère un peu tendu parce que le bois va rapporter cette tension dans le vin. Et résultat, eh bien, on a cette montaloise que vous avez tous goûté.
Cher Gaëc.
Il y a un petit goût fumé, non? Vous avez...
Oui, bien sûr qu'il y a un petit goût fumé. C'est la seule trace très élégante de l'élevage. Ils sont en bio, ils sont en train de passer en biodynamie, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens qui font des très jolis vins et qui font honneur à cette appellation.
Est-ce que cette cuvée, la Montaloise 2018 du domaine Jean Théier, va s'associer, va se marier,
écoutez, on l'espère,
avec cette sole que Thibaut Sombardier est en train de dresser?
Je profite juste pour dire que c'est Patricia et Olivier Luneau qui ont repris les rênes du domaine, de ce domaine familial, et il faut aller leur rendre visite, ils reçoivent adorablement. Cette cuvée, qui est un beau vin, qui a une bonne dizaine d'années de garde devant lui sans problème, est vendue 15 euros au domaine. Et je suis impatient de le goûter sur la sole.
Thibaut Sombardier a fait du chemin, que s'est-il passé? Ah, vous l'avez carrément préparé, levé, je rêve. Voilà. Deux assiettes, l'une pour Charles Guiriec, l'autre pour Thibaut Sombardier. Tant pis Elvira, tant pis pour moi. Aussi.
Jérôme, vous voulez pas valider votre accord?
Si, justement. Oui.
Là, qu'est-ce que vous avez fait? Elle a été cuite, vous l'avez citronnée légèrement.
J'ai fini, trait de jus de citron à la fin dans le beurre. Ensuite, je l'ai débarrassée dans une assiette, j'ai levé les filets. Après, j'ai déposé dans l'assiette, j'ai rajouté un petit peu de beurre dessus, encore mon beurre de cuisson, forcément.
Sinon, ce serait sec.
Un tour de moulin à poivre à la fin, parce que je mets pas le poivre avant la cuisson pour pas le brûler. Et c'est parti.
Alors, on veut une petite impression sur cet accord.
Alors, à l'attaque, ça c'est quand même merveilleux.
Ah ouais, pas mal.
Oh, le rêve.
Oh, le pied.
Je vais peut-être essayer d'enlever la peau la prochaine fois. Normalement, moi, je l'enlève pas.
Délicatesse.
C'est remarquable. Quand une sole est trop cuite, il y a un indice, ça colle légèrement aux dents, on est d'accord?
Exactement.
Ça devient un peu cotonneux.
Oui.
Là, on garde une très belle fermeté, on part d'un poisson bien frais, mais cuisson remarquable, bravo Thibaut Sombardier, non?
Avec plaisir.
C'est un délice absolu. Et la subtilité de la sole que nous avons soulignée tout à l'heure, elle rencontre la subtilité de ce vin. L'acidité très élégante de ce Sauvignon vient cueillir à la fois le citron posé sur la sole et en même temps rafraîchir le palais avec le beurre qui est présent. C'est délicieux.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Thibaut a arrosé de beurre fondu pendant tout le temps de la chronique de Jérôme.
Et
c'est
oui.
Dire le temps que ça a pris.
Vous avez raison, on entendait ce petit cliquetis charmant que faisait effectivement la cuillère en inox au fond de la poêle. Un énorme merci, c'est un franc succès. Il y a d'autres choses qu'on va déguster dans un instant avec Thibaut Sombardier, parce qu'il n'y a pas que la sole dans la famille des poissons plats. Il va être dans un instant question également de Barbu ou de Carlet. tes cheveux de Junior. Vous êtes bien à bord, on va déguster.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Les poissons, les poissons. Moi, j'adore les poissons. Les couper, les tronçonner à vif. Je rase les entrailles et je les jette dans la poêle. Ils frétillent, ils tortillent, grognent.
Alors, mes moussaillons, un Walt Disney, allez, je vous aide.
Bah, Nemo.
Nemo.
Non.
La petite sirène.
Bravo. Ah. La petite sirène, 1989, absolument, bravo. Jérôme Guénès.
C'est très inattendu.
Je pensais absolument pas que.
C'est un coup de bol monstrueux.
Que ce soit Jérôme Guénès. Non, mais on vous aurait passé du Audiard, j'aurais compris.
Oui, ça, je suis mais un peu plus familier.
La petite sirène, incroyable. Bon, vous l'avez compris, chers amis auditeurs, les poissons plats passent à la casserole dont on va déguster de très belle manière. On a une petite question d'auditeur pendant qu'Elvira est en train de manger
La bouche pleine, elle est empêchée.
J'ai tout fini mon assiette.
On a une question d'une auditrice.
D'une auditrice qui est en Normandie et qui nous demande comment cuisiner le cetto et quelle est la situation des stocks, notamment de cetto.
Mais déjà, le cetto, tout le monde ne sait pas ce que c'est.
Alors, le cetto, c'est pas une petite sole. Donc, c'est une espèce à part entière, mais qui reste petite. Donc, la taille maxi, c'est 20-25 cm. On la trouve essentiellement sud-ouest Vendée. On appelle ça aussi les langues d'avocat.
Ah oui.
Et en fait, bah, c'est l'équivalent de la friture chez les poissons plats, quoi. C'est-à-dire que on en achète, ça coûte pas très cher. On se frit ça, on mange tout en fait souvent, et c'est super pour l'apéro.
On en achète sûrement trop parce que personnellement, j'en ai jamais vu chez aucun poissonnier parisien.
Bah, ils s'en pêchent beaucoup moins. Par exemple, on pêche plusieurs milliers de tonnes par an de sole brune. On pêche quelques centaines de tonnes par an de cetto, mais ça coûte pas cher. Et il y a des moments dans l'année, notamment au printemps, où les pêcheurs de la Cotinière et toute cette zone-là font des belles pêches.
Est-ce que Thibaut Sombardi aime le cetto ?
J'adore.
Ou les cetto ? Ouais. Vous aimez ça ?
Frit, bon, trait de citron, fini.
Parfait. Mais là, vous êtes en train de faire autre chose.
Oui, j'ai fait une terrine de carrelet, moi.
Non, mais attendez, une terrine de carrelet.
C'est joli.
Incroyable. Décrivez cette terrine.
Alors, c'est une sorte de petit pressé. Le carrelet, c'est une chair qui est assez cotonneuse.
Ouais.
Donc, je l'ai mariné comme un gravlax avec du sucre, du sel, des agrumes un petit peu râpés, des poivres parfumés. Ensuite, je l'ai saisi juste d'un côté très fort dans la poêle. Et après, j'ai fait un petit fumet avec les arêtes et la peau qui est très gélatineuse. Et du haddock fumé aussi dans le fumet, j'ai mis un petit peu.
Waouh.
J'ai fait quelques pickles, j'avais oignons, concombres, tout ça, des pommes de terre, cuites à l'eau.
Splendide.
J'ai enroulé tout ça dans des poireaux, et puis voilà. Quoi.
Et c'est faisable. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent se référer à la recette que vous nous avez gentiment laissée et qui figure sur franceinter.fr, à la page « On va déguster le carrelet ». C'est un poisson plat, ça c'est une certitude. Est-ce que ça vient de carré, mais ça peut porter aussi le nom d'un filet qui porte aussi le nom de carrelet? On n'y comprend pas grand-chose, Charles Guériec.
Eh ben oui, en fait, c'est... Alors, a priori, ce serait un poisson qui serait aussi large que long, donc carré à la fin.
Ah, c'est ça.
Mais on voit les spécimens qu'on a là. Alors, il y en a certains, c'est vrai, quand ça grossit, ça a tendance à s'élargir, mais pour moi, le turbo serait plus carré que le carrelet. Et le carrelet, c'est aussi cet engin de pêche là qu'on utilise beaucoup, Vendée, estuaire de la Gironde. Donc, sur les falaises calcaires, on descend un filet qui a une forme carrée. Alors.
Donc, on ne sait pas si c'est le poisson qui porte le nom du filet ou le filet qui porte le nom du poisson. Toujours est-il qu'ils s'appellent tous les deux carrelets, mais on peut dire pli aussi.
C'est ça, on dit aussi pli ou carlé. Pli, carlé, c'est pareil.
Et ça a l'avantage d'être un poisson assez modeste, pas trop cher.
C'est un poisson pas cher, qui vaut vraiment un quart du prix de la sole,
mais alors,
en général.
Quand Thibaut Sombardier dit que ça a une chair assez cotonneuse, c'est pas forcément un compliment.
Mais c'est fragile, en fait, comme poisson. Et c'est pour ça qu'il est souvent moins cher. C'est que souvent, il est cotonneux parce qu'il est un peu trop vieux. Alors que acheter sur les quais à Boulogne-sur-Mer ou dans le Nord, ben en fait on a des super bons poissons, on rentre à la maison, on les mange. Là, il n'y a pas besoin de les faire attendre, on peut les manger dès le retour de pêche. Et vu la différence de prix, on se régale quand même.
Elvira est en train de s'évanouir.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon, Thibaut.
J'ai pas goûté encore.
Oh, cette terrine, c'est une merveille. Il y a à la fois la texture, la saveur, un peu scandinave. Il y a de la nette, il y a du gravlax, il y a du fumé. C'est très, très, très plaisant, c'est
très,
équilibré.
Très bon.
Oh là là, c'est bon.
Oh la vache.
La vache, hein.
Thibaut Sombardier a pris Elvira et pas que. Tout le plateau par les sentiments.
Oh là là.
Ah oui, c'est formidable. Ça. C'est vraiment très bon.
Splendide.
C'est une
merveille.
C'est assez exceptionnel. En un mot, Thibaut Sombardier, comment expliquez-vous cette hiérarchie sociale qu'il y a dans le, la famille des poissons plats. Il y a l'Aristo qui est le turbo en général, vraiment une pièce très recherchée, notamment dans les grands restaurants étoilés. D'ailleurs, sur les étals des poissonniers, on se rend compte que c'est un poisson très cher. Il y a des poissons plus modestes. Ça s'explique par la qualité gustative de ces poissons ou il y a une hiérarchie qui s'est faite historiquement ?
Il y a presque une hiérarchie, j'ai envie de dire, technique. En fait, le poisson, plus il est cher, c'est plus il est simple à travailler. Un gros morceau de turbo, c'est pas compliqué, on le met au four, c'est fini. Alors que la plie, la barbue, tout ça, ça demande un peu plus de travail et un peu plus de technique. Donc, pour arriver à des résultats qui sont tout aussi bons, ça demande un peu plus d'expérience.
Ça demande quelques stratagèmes, en fait. Voilà. Et là, vous les avez bien appliqués sur cette terrine de Carlet. Sur la hiérarchie, entre guillemets, sociale de ces poissons plats.
Bah, souvent liée, en fait, à la résistance à des chaînes longues. Donc, quand on part en mer pendant 15 jours et qu'on attrape la première sole brune ou le premier Carlet, bah, au bout de 15 jours, quand on rentre, la première sole brune, elle est à peu près potable. Mm-hmm. Alors que le Carlet, il commence à être plutôt proche du coton ou de la bouillie, et donc bah, il va falloir le passer en filet, il va falloir le travailler, donc on va pas le payer cher aux pêcheurs.
Très bien.
D'où l'intérêt d'acheter à des petits pêcheurs côtiers qui sortent à la journée et qui rentrent à peine 10 heures après être sortis du port.
Dans un instant, Thibaut Sambardier nous fait une autre surprise iodée à base de barbu, et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises, mais pour l'heure, Elvira Masson nous raconte le joli dessin d'une association française.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira.
Un jour de 2019, Charles, vous avez organisé un apéro. Un apéro poiscaille, ça doit être pas mal d'ailleurs. Au cours duquel se sont rencontrés un certain Thibaut Josse et Charles Brenne, qui se trouve être votre associé et président de l'association Pleine Mer. Une association créée avec quelques copains en 2018, dont le but est de relier le monde de la pêche durable et du littoral vivant avec la société civile. Le second propose au premier de le rejoindre et de développer une carte interactive des circuits courts de la pêche. Ils n'ont pas beaucoup de budget. Thibaut Josse parcourt des milliers de kilomètres en voiture, il sillonne tout le littoral français, il vit dans sa voiture, il dort dans sa voiture. Et un an plus tard, il y a donc un an exactement, est publiée cette carte qui fédère un millier de bateaux de pêche et de points de vente en circuit court un petit peu partout sur les côtes françaises et qui est mise à jour continuellement. C'est un outil formidable, accessible sur associationpleinemer.com. Mais vous avez peut-être entendu parler de Pleine Mer, non pas pour cette carte, mais au moment de l'inauguration à Concarneau d'un bateau du nom de Scombrus.
Ah.
Au mois de septembre dernier. Alors quand je dis un bateau, c'est pas ça. C'est un navire de plus de 80 mètres. C'est une usine qui peut pêcher jusqu'à 120 tonnes de poissons par jour. Prouesse technologique, disent certains, ultra innovant et performant, automatisé, avec un processus archi-performant de congélation à bord d'un écrit. C'est effectivement, comme vous le dites Charles, une usine flottante. Pleine Mer fait partie des associations qui se sont mobilisées contre l'inauguration en grande pompe de ce monstre marin et de ce qu'ils considèrent comme les funérailles de la pêche artisanale, mais également les funérailles des ressources. Car le Scombrus est le symbole même de l'industrialisation de la pêche et de ses conséquences dramatiques immédiates. Concurrence déloyale envers les petits pêcheurs, accaparement des quotas de pêche, par ce navire qui appartient à France Pélagique, entreprise française, mais filiale de Cornelis Vrolijk, géant hollandais de la pêche, dont le mode opératoire est, je résume, de racheter des bateaux français, entre autres, et de licencier les équipages à bord. Donc non seulement est-ce un drame social, une pratique de concurrence déloyale, de monopole, mais aussi un drame du point de vue des ressources. Certes, c'est de la pêche pélagique, donc avec un filet qui théoriquement ne racle pas les fonds marins, mais avec une capacité monstrueuse, des filets larges et pas sélectifs. On dit que 90% des dauphins échoués sur les côtes atlantiques auraient été capturés par ce type de filet. Si le sens de l'histoire est d'aller vers une pêche plus douce et responsable, la mise à l'eau de ce type d'engin est une régression terrible. L'association Pleine Mer a décidé de ne pas se laisser abattre et ils ont décidé, avec les pêcheurs proches de l'association, de se mettre à poil, au sens propre. Ça commence comme une blague, il y en a un qui dit « chiche, vas-y, je me dessape ». L'un d'eux dit « bah allons-y, bah continuons, on s'y met tous ». Ça amuse, ça interpelle, ça commence comme une blague sur les réseaux sociaux, puis ça devient un vrai projet en fait de communication, un projet qui frappe les esprits. Pour finir par donner un calendrier que je n'ai pas vu, Charles, mais qui est en vente en ce moment.
C'est on a entendu parler, voilà. Ils se sont mis à poil en disant on est à poil à cause de ces industries et ces entreprises qui s'accaparent les quotas. Donc nous, on est à poil, on n'a plus rien à pêcher.
Et donc, oui, ils ont gagné à sous
les
yeux.
Il est sur Instagram, là.
Le compte Instagram de l'association Pleine Mer.
François Agis me montre un compte Instagram avec des gens à poil. Je me dis, mais on ne se connaît pas
tous. Des pêcheurs français.
Oui. Ça me gêne. Et puis après, évidemment, je vois que ce sont des pêcheurs.
Et des pêcheuses.
Et certaines pêcheuses aussi. La parité n'est pas respectée. Hein. Il y a moins de pêcheuses que de pêcheurs.
Bah oui.
Toutes les pêcheuses sont mises en avant.
Mais sinon, je pense que c'est une excellente initiative.
Et ça nous rappelle quelques calendriers de rugbyman.
Oui.
Oui, oui, mais sauf que là, c'est vraiment pour la bonne cause, quoi. Alors, est-ce que ça a des effets concrets immédiats? Pas tout de suite, mais tous les moyens sont bons pour communiquer, ça frappe les esprits. Communiquer de manière pédagogique, l'intention est également au cœur de ce premier numéro d'une revue, c'est presque un livre, appelé Embrun, et publié par une petite maison d'édition indépendante qui s'appelle Menu Fretin. C'est formidable, qui mêle du reportage, la visite d'une souricerie, un atelier de fumage familial de Haran à Boulogne-sur-Mer, de l'histoire, des extraits de textes du dictionnaire d'Alexandre Dumas, des techniques de pêche, de cuisson, des gestes, des recettes fabuleuses, cocotte au macro, et ah tiens, un poisson plat, le carrelet grillé, sauce aux herbes et aux lentilles. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le financement de France Filière Pêche, je suis obligée de le dire pour des raisons de transparence absolue, qui est l'organisme chargé de la promotion des produits de la mer français et de la pêche nationale, qui est elle-même financée pour partie par la grande distribution. Acheter un poisson France Filière Pêche, ou issu de son label Pavillon France, c'est clairement pas faire un geste engagé. Hein. Mais au moins, on a l'assurance que le poisson n'a pas été pêché par un navire hollandais, qu'il vient de nos côtes et qu'il n'est pas le produit de la pêche électrique. Une seule Pavillon France, c'est 1000 fois mieux qu'une darne de saumon norvégien.
Un petit pas de consommateur, un grand pas pour les stocks de poissons.
Voilà.
C'est ça.
C'est déjà pas mal. C'est... Mm-hmm. Bah oui, l'idéal, c'est s'inscrire sur Poiscaille, mais déjà aller sur un
étal.
Il a raison, Charles.
Aller sur un étal et dire bon, il y a du saumon, il y a du cabillaud norvégien, il y a des crevettes équatoriennes. Ben non, en fait, je vais prendre le taco Pavillon France.
Voilà.
Bah déjà, bravo.
Embrun, au pluriel, la cuisine de nos mères, numéro 1, qui vient de paraître chez Menu Fretin.
On finit par une dernière sensation iodée, on arrive à la fin de cette émission. C'est Thibaut Sombardier qui est en train de nous dresser quelque chose de tout à fait étonnant. C'est l'occasion d'ailleurs d'évoquer un dernier poisson plat, la barbue.
Parent pauvre, on va Charles dire, Guiriec. Du turbo, mais qui est quand même un beau poisson qui a un certain prix. Mais si on en trouve sur l'étal, en général, ça vaut 30% moins cher.
Mm-hmm.
Faut y aller. Soit cru comme ça, soit au four, là on est génial.
Et il a un avantage à soupçonner, ce barbu. Alors, vous venez de le révéler, Charles Guiriec, mais incroyable ce que vous êtes en train de nous faire. Alors, racontez-nous, Thibaut Sombardier.
Alors là, tout simplement, des fines tranches de barbu, huile d'olive, citron, sel, poivre.
Mais
alors,
fines tranches à cru?
Ouais.
Donc, on appelle ça des sashimi en bon français.
C'est un sashimi, voilà.
Ou carpaccio.
Là, pour une fois, il a raison.
De carpaccio,
ne sashimi. Soyons pas trop snob. C'est un carpaccio. C'est le seul poisson plat que vous pouvez, que vous autorisez justement à trancher cru, Thibaut Sombardier?
Alors, on peut tous, bien sûr, les manger crus, mais les autres sont beaucoup plus nerveux, mous. La barbue est un peu plus ferme,
c'est
je trouve. Et à cru, c'est plus agréable.
Moi, j'ai déjà essayé du turbo français cru sur des sashimi à Paris. Je peux vous assurer que c'est un peu mâchouillant. C'est un peu viandeux.
C'est très spécial, ouais.
Un peu trop même. Allez, une petite impression. Et on se quitte sur cette impression d'un carpaccio ou sashimi de barbu à l'huile d'olive.
C'est délicieux et c'est parfaitement assaisonné.
Quel bonheur.
C'est tellement simple.
Mais il est bon, le Sombardier.
Ouais.
Il est bon.
Ouais, vous êtes très fort.
Bon, la limande, évidemment.
Il faut y aller, la limande, le flet, petit poisson côtier, souvent mal aimé.
Souvent mal aimé.
Limande, limande sol. Limande à fond, retour de pêche, une petite limande, on a mangé l'autre jour à Courcelles-sur-Mer, c'était...
Un poisson beaucoup plus abordable côté prix.
Ah ouais, pareil, même prix que le carrelet à peu près, vraiment, ça vaut le coup.
Merci à tous les deux, merci beaucoup Charles Guiriec. Je rappelle que si on veut du bon poisson en circuit court, en le mangeant, la conscience tranquille et à prix raisonnable, bah, il y a Poiscaille, le circuit court de la mer.
Poiscaille.fr, on y va, vous on s'inscrit.
Vous développez pas mal dans toute la France et c'est pour la bonne cause, merci beaucoup.
On achètera bientôt le Scombrus.
D'être avec nous, carrément il est ambitieux. Et Thibaut Sombardier, un grand merci.
Merci beaucoup.
On a hâte que ça réouvre vos restaurants, vos bistrots à Paris.
Je suis pressé.
Vous nous avez fait une fois de plus la démonstration que vous étiez un chef brillant. Merci beaucoup.
Merci.
La semaine prochaine, tous nos chemins mènent au rhum. On vous raconte et on cuisine ce passionnant alcool de canne à sucre avec le spécialiste Fabien Humbert, Antoine Gerbel, Manon Fleury et Mathieu Conquet seront également en notre compagnie. Merci beaucoup Elvira.
Merci à tous et
à la prochaine. Un grand merci Jérôme Gagnez.
Et bien, je vous en prie, à bientôt.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.